bienvenue à vous, bienvenue à tous pour cette cinquième saison de La Grande Table avec deux parties. La Grande Table Culture tout de suite et notre première invitée, Camille Laurence, et La Grande Table des Idées qui reviendra après le journal de Thomas Cluzel à 12h55 avec deux autres invités autour de la figure d'Anaïs Nin. Nous recevons Agnès Dessartes tout à l'heure et l'auteur, autrice, faut-il dire aujourd'hui, de bande dessinée, Léonie Bischoff, qui signe un très très beau roman graphique sur cette icône du féminin ou du féminisme, Anaïs Nin. Ce sera à partir de 12h55. Bienvenue à tous. Bonjour, et si nous faisions de cette rentrée si particulière une rentrée d'abord littéraire, avec plus de 500 nouveaux romans, français ou étrangers, les librairies s'apprêtent à refaire le plein, motivées par l'engouement post-confinement des lecteurs. Qu'est-ce qui vous attend? Des livres pour s'évader, des livres pour vous faire réfléchir ou frissonner, des mots et des idées. Autour de la grande table ces prochains jours, Emmanuel Carrère, Laurent Mauvigné, mais aussi l'américain Colson Whitehead ou la libanaise Diane Masloum. Aujourd'hui, la marraine de cette cinquième saison, auteur d'une dizaine de romans, dont Romance, Celle que vous croyez, Dans ces bras-là, prix Femina, chroniqueuse au Monde des livres, Camille Laurence vient de rejoindre aussi le jury du prestigieux prix Goncourt. D'Amphi, son nouveau roman publié chez Gallimard, elle fait naître puis grandir son héroïne, Laurence, car c'est une fille dans la France des années 60 à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une fille? Naître fille, une chance ou une malédiction? Bienvenue à tous.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Un soir, des messieurs passent à la maison, ils ont des questions à poser. Ils sont assis à la table de la salle à manger avec papa. L'un d'eux coche un formulaire qu'il a sorti de son cartable. D'après mes calculs, c'est le recensement de 1964. J'ai 5 ans. Timide et curieuse à la fois, je suis cachée derrière le canapé. « Vous avez des enfants ?» demande le monsieur. « Non. » dit mon père. J'ai 2 filles.
Bonjour Camille Laurence.
Bonjour Olivier.
Merci d'être avec nous. Une maladresse, presque un aveu, de quoi ce lapsus du père est-il révélateur pour vous?
Il est révélateur du fait que dans cette période des années 60 où ce père veut absolument avoir un garçon, il n'a que des filles, il aura 3 filles, et bien il considère que avoir un enfant, c'est avoir un garçon, et que les filles ne sont que des filles. Naître fille, c'est n'être qu'une fille.
En 2003, dans L'amour roman, paru chez POL, vous décliniez, vous exploriez ce qu'aimer veut dire. Hein. L'amour, c'est ça, c'est encore ça, écrivez-vous. En 2020, vous répétez un peu cet exercice en vous demandant cette fois, qu'est-ce qu'une fille? Alors, est-ce qu'il est plus dur d'essayer de cerner les contours de cette féminité, de ce qu'être fille dans ce monde veut dire, que de cerner ce sentiment multifacette qu'est l'amour? À vous lire, en tout cas, Camille Laurence, être une fille, c'est un peu ça et c'est encore ça. On va écouter un extrait de votre roman, Fille, à nouveau, qui est en librairie en format papier chez Gallimard, mais aussi en CD, lu par Elsa Lepoivre de la Comédie Française.
C'est une fille. Ça commence avec un mot, comme la lumière ou comme le noir. Tu nais d'un mot comme d'une rose. Tu éclos sous la langue. Tu n'es rien encore, à peine un sujet. Tu peines à venir à l'existence. Tu ne peux pas encore dire « je suis ». Personne ne dit « elle est », même au passé. Et la fille fut, même avec un article indéfini. Et une fille fut, ça ne se dit pas. Tu n'es pas indéfini. Du reste, oh non, tu n'es pas né indéfini. Il y a déjà un « e », tu vois ? Un « e » muet. C'est vrai, mais un « e » muet, loquace. Tu es un article bien défini, au contraire. Les faits parlent pour toi. Né, fille. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be.
When I grew up and fell in love. Qu'est-ce qu'une fille, Camille Laurence? Une qualité, un attribut, un stigmate? Ce n'est pas un garçon, en tout cas, ou alors un garçon diminué, un garçon blessé, comme vous l'écrivez. Aujourd'hui, comment vous vous définiriez? Comment vous nous définiriez?
C'est difficile de donner une définition, mais en tout cas, c'est aussi un mot. C'est d'abord un mot, le mot fille, et toute la langue charrie finalement l'infériorisation qui depuis des siècles est attribuée au sexe féminin. Et donc c'est pour ça que je l'ai intitulé fille ce livre, parce que si on examine le mot, c'est évidemment, ça désigne le sexe féminin, mais également la filiation, le fait qu'on est toujours la fille de quelqu'un, alors que pour les garçons, il y a deux mots, garçon et fils. Fille, voilà, c'est une dépendance constante. Et puis les autres sens du mot sont toujours péjoratifs. Une fille, c'est une prostituée. Aller voir les filles, dans tous les romans du 19e siècle, c'est aller au bordel. Et donc, cette définition qui est dans la langue même péjorative, eh bien, il faut que dans la vie réelle, ça se transforme en quelque chose de positif.
Une vieille fille.
Une vieille fille également, voilà. Rester non mariée, incomplète. Ouais. Voilà.
Il y a ce côté très péjoratif, mais aussi on sent cette importance de trouver les mots pour le dire, les mots à repenser, cette définition qui implique beaucoup de ce que nous sommes ou la manière dont nous vivons. Pour vous quand même, être une fille, on le sent sous votre plume, c'est d'abord une addition de souvenirs, une addition de sensations.
Oui, de sensations et de sentiments de la différence, si je réfléchis. Personnellement, dans ma propre vie, puisqu'il y a des éléments autobiographiques dans ce roman, le souvenir que j'ai, c'est toujours d'avoir eu le sentiment que, comme le dit d'ailleurs Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, que on est une fille par défaut, en fait. C'est juste que, voilà, on n'est pas un garçon. Ce serait ça la définition la plus négative, mais c'est celle qui habite mes souvenirs.
Et aujourd'hui, si vous deviez en donner une définition positive d'être une fille, quelle serait-elle?
Mais ce serait la dernière phrase du roman, c'est merveilleux une fille. C'est-à-dire tout le parcours de ce roman, c'est finalement de la première phrase qui est c'est une fille, qui est l'annonce aux parents, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'échographie, que c'est une fille qui est née. Alors qu'ils attendaient un garçon, jusqu'à la dernière phrase du roman, c'est merveilleux une fille, où s'est intercalé juste un petit adjectif, c'est la même phrase avec juste un adjectif en plus, et c'est aussi l'évolution historique qu'on souhaite à toutes les filles.
Et vous le dites, dans ce roman, il y a des éléments autobiographiques. Est-ce que c'est aussi le parcours que vous avez fait comme écrivaine, mais aussi comme femme? C'est-à-dire que vous avez finalement appris à aimer être fille à partir du moment où vous êtes devenue mère?
Oui, absolument. Je pense que ça m'a fait énormément évoluer. Les conversations ensuite avec ma fille m'ont beaucoup appris. Oui, je pense que c'est ce parcours qui est le parcours du roman, c'est un parcours vers l'apprentissage, on pourrait dire, l'initiation à l'amour de soi-même en tant que fille.
Depuis MeToo, on parle beaucoup de libération de la parole comme romancière. Est-ce que c'est pas d'abord les mots, vous, que vous cherchez à libérer, comme on l'évoquait à l'instant, des stéréotypes qu'ils charrient, des assignations qu'ils portent aussi?
Oui, je suis écrivaine, donc la langue est ma matière première et je réfléchis à partir de la langue, mais pour tout. Voilà, si je prends le mot fille comme je le faisais à l'instant, je peux le développer, essayer d'en voir tous les sens. Mais si je prends le mot garçon, je me rends compte que le féminin de garçon, c'est garce. Ça me pose problème aussi. Pourquoi est-ce que le féminin de garçon, qui au XVIe siècle était juste désigné une fille, une garce, est devenu une insulte? parce que tout ce qui est féminin, finalement, dans la langue, prend cette connotation plutôt négative, et on le voit aussi dans la grammaire. Ce qu'on apprend aux petites filles et aux petits garçons dès l'école primaire, cette règle de grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin pour l'accord. Voilà cette phrase-là, qui est exactement celle qu'on enseigne. Le masculin l'emporte sur le féminin. Alors évidemment, on va dire, mais oui, c'est pour la grammaire. Mais à force de l'entendre, c'est dans toute la vie que le masculin l'emporte sur le féminin, si on n'y réfléchit pas. Donc voilà, c'est toute cette tout ce que charrie la langue sans qu'on en ait vraiment conscience, parce que on l'emploie tous les jours, parce que ça fait partie de nous dès la naissance, et c'est la langue qu'on entend. Et en fait, ça nous informe complètement, ça nous modèle, ça nous structure profondément et inconsciemment souvent. Et je pense que c'est le rôle de l'écrivain de traduire cela et d'en faire prendre conscience au lecteur.
Ce roman, Fille, qui paraît chez Gallimard, Camille Laurent, c'est un exercice d'introspection, mais c'est aussi un livre d'époque où vous interrogez la société dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie aujourd'hui? Alors peut-être pas en 2020, parce que ce livre a été commencé un peu plus tôt, mais de réfléchir à la condition féminine.
En fait, j'avais déjà écrit plusieurs romans sur le sujet, notamment un qui s'appelait L'amour roman, où je reprenais trois générations de femmes en essayant de voir comment la notion d'amour et les grands événements d'une vie de femme se transmettaient de génération en génération. Et là, je dois dire que c'est le mouvement MeToo qui m'a amené à réfléchir à nouveau de manière peut-être plus précise et plus informée à ce que signifiait être une fille maintenant par rapport justement aux années 60. Parce que finalement, là, on parcourt presque 60 ans d'une vie avec deux grands moments du féminisme. Les années 70, que j'ai connues, j'étais donc à peine adolescente. J'ai été particulièrement concernée, j'ai manifesté, et puis le mouvement MeToo là qui est une reprise, mais avec d'autres mots d'ordre et qui va beaucoup plus loin, je pense, et qui était nécessaire et qui montre aussi que tout n'est pas réglé, hein, parce que j'entends beaucoup même de jeunes femmes qui disent « mais non, moi je ne suis pas féministe, maintenant il n'y a plus lieu d'être féministe ». Mais si, il y a toutes les raisons d'être féministe.
Et quelle féministe êtes-vous? Je vous propose d'écouter les mots d'Annie Ernaux, écrivaine comme vous. Elle est l'auteur de « Les années », elle est peut-être aussi d'abord celle d'une femme sur sa mère, sortie en 88 chez Gallimard, votre éditeur. Annie Ernaux, elle raconte dans cet extrait que vous allez entendre comment elle s'est construite en fusion ou en opposition avec des figures féminines référentes, la mère, la grand-mère. Écoutez.
Je sais qu'une part de mon féminisme n'est absolument pas acquis intellectuellement, mais il est originel. Il vient de ce que ni ma mère, ni ma grand-mère, ni mes tantes je vais utiliser une de leurs expressions, ne se laissaient marcher sur le pied. Il y avait aussi cette conviction, qui était une conviction de tous les jours, que les hommes, là aussi je vais employer une expression, ne valaient pas cher. Alors, sauf mon père, bien sûr, ça, ma mère avait tiré le bon numéro. Vous voyez, toutes ces phrases-là que j'utilise, ce sont des phrases entendues et qui formatent une enfance et un féminisme. Voilà. Alors, sans doute un féminisme un peu brutal, mais je crois qu'il ne sera jamais aussi brutal que ce que la domination masculine inconsciente, la plupart du temps, fait subir aux femmes.
Voilà, j'aime bien cette expression, elle parle de son féminisme comme d'un féminisme brutal. Et dans ce brutal, pour ma part, j'entends plutôt brut, authentique que radical. Quelle féministe êtes-vous, vous, Camille Laurence?
Non, je ne me définirais pas comme radical. D'abord parce que c'était un long cheminement, donc... c'est une émancipation progressive et qui n'est pas terminée. Mais je ne suis pas radicale, je le ressens par rapport à des filles, à commencer par la mienne, qui a 25 ans, donc des filles de cette génération, qui sont... oui, qui sont plus radicales, qui ne laissent rien passer. Par exemple, moi, je peux très bien avoir des discussions avec ma fille qui rentre en se plaignant que un garçon lui a dit bonjour dans la rue. Bon, j'ai tendance à trouver que ça n'est pas bien méchant parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune fille. Bon, voilà, ça c'était tellement ancré dans les mœurs, c'était tellement habituel, ordinaire. Et voilà, les filles d'aujourd'hui ne laissent pas passer ce genre de choses. Elles n'ont pas envie d'être abordées dans la rue, n'ont même pas envie qu'on leur dise bonjour. C'est pour elles une sorte d'acte d'intimidation ou une façon de leur montrer qu'ils se permettent de leur dire bonjour alors qu'elles n'ont pas envie de parler. Et je comprends cela, mais je le comprends lentement.
Mais c'est peut-être cet ou ces extrêmes qui ont permis aussi à certains mots, certaines blessures, certains actes qui n'étaient pas reconnus et pas entendus auparavant, aujourd'hui, d'être réellement pris au sérieux.
Mais complètement.
Oui. Et je pense, et vous probablement aussi, à cet inceste que vous racontez dans ce roman, Fille, que vous avez connu, puisqu'il est déjà apparu dans d'autres de vos livres, Camille Laurence, ce grand-oncle qui a commis des attouchements et cette parole que vous avez essayé de confier à votre grand-mère, cette grand-mère qui vous a expliqué, ou qui explique en tout cas à votre héroïne Laurence, ici dans Fille, que le linge sale se lave en famille. Ce que tu viens de me dire, ne le répète jamais, lui dit sa grand-mère.
Oui, mais je pense que cette scène-là pourrait, et malheureusement, a sans doute encore lieu maintenant. Ça, je pense que ça n'est pas lié à une époque. Simplement, avant, on n'en parlait pas, et maintenant, on en parle davantage. Cela dit, quand mon héroïne parle emploie le mot inceste, justement, personne ne comprend. Alors que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, mais on ne fait pas le lien entre une action et le délit ou le crime que cela représente. Donc je crois que c'est un des problèmes majeurs. Vous voyez, pour écrire ce roman, il y a un moment où je me suis dit, voilà, pour voir ce que c'est qu'une fille, je vais reprendre dans ma propre vie, comme une sorte d'installation en fait, tous les moments où je me suis sentie agressée comme fille, parce que j'étais une fille. Et en fait, il y en avait trop. Il y en avait beaucoup trop. Tout ce que dénonce MeToo maintenant, c'était toutes ces choses dont on ne parlait pas avant, depuis, je ne sais pas, le médecin qui vous raconte une blague paillarde alors que vous êtes en consultation. Enfin, toutes ces choses que moi j'ai vécues et qui ne me paraissaient pas, même pas, blâmables. Et maintenant, c'est seulement maintenant que je m'interroge, je me dis, mais en fait, oui, c'est une forme d'agression.
Et qu'on acceptait.
Et qu'on acceptait, oui.
Et que nos mères, nos tantes acceptaient aussi,
bien
parce
sûr.
Qu'on leur apprenait
bien sûr.
À ne pas en faire toute une histoire.
Oui, voilà.
France Culture, il est midi 20. C'est la rentrée de votre grande table culture avec la romancière Camille Laurence.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche. Le cœur toujours, percé par ta flèche. Bang, 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 mes larmes un peu sèches. La pêche. Souviens-toi l'été dernier, tu as disparu. Ce n'était qu'un CDD, je n'avais pas bien lu. Souviens-toi l'été dernier.
Benjamin Biolay, la voix des artistes peut avoir un écho dans notre société à condition qu'elle exprime une colère saine et non pas factice, dit l'auteur, compositeur, chanteur Benjamin Biolay, extrait de Grand Prix, son neuvième album de ce passionné de Formule 1 qui est sorti juste avant l'été, l'un des plus écoutés durant cette saison, à retrouver dans les bacs si vous le souhaitez. Ce titre s'appelle « Souviens-toi ». L'été dernier. Et de souvenirs, il est question dans votre roman, dans votre livre « Fille Camille Laurence » qui paraît chez Gallimard, de souvenirs et de transmissions. Qu'est-ce qu'on vous a appris? Comment vous êtes devenue femme? Comment s'est faite cette transmission? On parlait de la place des mères, la place des pères. Étonnamment, dans le roman, c'est le père qui fait l'éducation sexuelle, plus que sentimentale d'ailleurs, de ses filles. « Chauffe un marron, ça le fait péter », avertit le père, qui n'a qu'une crainte, c'est que ses deux filles tombent enceintes. Votre héroïne, elle va se construire en creux, dans les regrets de son père de ne pas avoir eu de fils, puis dans le deuil de l'absente, une sœur morte à la naissance, perte qu'elle vivra à son tour 20 ans plus tard. Est-ce qu'on se construit toujours pour vous entre les lignes, Camille Laurence? Est-ce qu'on écrit d'ailleurs peut-être pour remplir les blancs?
Oui, je crois que enfin, ça peut être un moteur de l'écriture, de dire ce qui a été interdit ou ce qui a été... empêcher d'une façon ou d'une autre, oui, bien sûr. Ce que vous citiez tout à l'heure, la grand-mère qui dit ne le répète jamais, eh bien le fait de se mettre à écrire, c'est peut-être de transgresser cet interdit et de répéter ce qui devait rester tu. Oui, bien sûr. Mais enfin, c'est aussi là dans ce que vous venez de dire, c'est aussi le fait que la parole était donnée aux hommes parce que les femmes elles-mêmes avaient intériorisé leur infériorité. Enfin, j'ai vu des reportages, des archives des années 70, des femmes interrogées dans la rue qui considéraient tout à fait normal de ne pas avoir le droit de signer un chèque. Jusqu'en 1965, elles n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, de signer un chèque. Enfin, ce sont des choses qu'on a tendance à oublier, alors que ça ne fait pas si longtemps. Et il est vrai que le père de mon roman prend en charge l'éducation sexuelle, en effet, pas sentimentale, parce qu'il ne parle jamais d'amour, il ne parle jamais des sentiments, c'est vraiment... technique, voire mécanique, comment ça se passe et comment ça ne doit pas se passer, surtout, parce que c'est lui l'homme, c'est lui le scientifique, c'est lui qui sait, les femmes ne savent rien.
Souviens-toi, l'été dernier, chanté à l'instant Benjamin Biolay, tu te souviens d'elle, de cette fille-là, écrivez-vous, Camille Laurence, de l'irruption fracassante du désir dans sa vie. Oui, je m'en souviens. Une organisation nouvelle du monde prend soudain forme et sens. Les garçons sont faits pour elle. Ils sont différents, bien sûr. Mais justement, là est le défi, l'aventure. Dans ce roman, Fille, il est aussi question de la découverte du désir. Est-ce que vous vous souvenez, vous, aussi, du jour où il a fait son entrée dans votre vie, ce désir? Et est-ce que vous l'avez vécu comme un désordre?
Ah oui, je me souviens très précisément, oui, parce que c'est comme un coup de foudre, comme une révélation. Et bon, c'est vrai que la question de la différence sexuelle, le fait que quand même c'est une grande énigme qu'il y ait des garçons et des filles, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. L'attirance, oui, la fascination pour l'autre sexe, ça fait partie de mon histoire romanesque aussi, c'est le sujet de mes livres.
Le désir aliénant ou libérateur, ce sera aussi le sujet dans une vingtaine de minutes de la deuxième partie de La Grande Table avec nos deux invités, la dessinatrice Léonie Bischoff et la romancière essayiste Agnès Dessartes, autour de la figure d'Anaïs Nin. Il y a aussi un livre collectif aux éditions Pauvert qui va sortir le 16 septembre. Vous y participez, à vos côtés des écrivains comme Laurent Binet, Kaoutar, Archie ou encore Yannick Enel, tentent de saisir un peu les enjeux, les ambivalences de cette notion de désir. Sa beauté aussi, la beauté du désir, et on a hâte de vous lire, de vous y retrouver tous avec vos subjectivités. le désordre du désir. Et une dernière question sur votre nouvelle casquette. Aujourd'hui, vous êtes membre juré du prix Goncourt. Pourquoi avoir choisi de rejoindre ce groupe? Ça va vous prendre du temps. Le temps, c'est précieux. Qu'est-ce que vous voulez y défendre?
Je veux y défendre la littérature et puis mon goût, parce que vous savez, un jury est fait de subjectivité, hein, c'est pas une instance supérieure qui va définir ce qui est bien et ce qui est mauvais, mais c'est un groupe avec des goûts très différents et j'ai à cœur de transmettre mon amour de la littérature et d'essayer de faire passer le plus possible les livres que j'aime, les romans que j'admire, et de faire connaître le plus possible les auteurs qui le méritent.
Les auteurs et les autrices.
Et les autrices. Oui, alors c'est vrai, oralement maintenant je dis autrice. Je préfère le mot auteur avec un E quand j'écris, mais en fait maintenant je crois qu'en effet vous avez raison, il faut dire autrice. Comme ça, c'est clair tout le temps.
J'ai jamais raison. Je dis auteur et j'écris auteur avec un E aussi, mais peut-être que cette rentrée va nous permettre à toutes de basculer. La première sélection a été repoussée au 15 septembre. Ça va donc pas tarder. Vous avez fait vos choix à peu près. Vous avez commencé à discuter de votre première liste.
Ah oui,
ensemble. Ça y est.
Non, pas de la première liste, puisque c'est repoussé au 15 septembre, mais nous avons beaucoup déjà débattu, oui.
Fille, votre nouveau roman sort chez Gallimard. Il était prévu juste avant le confinement au printemps. Il va se retrouver maintenant, enfin, en librairie. C'est un très beau livre sur le féminin, la féminité, le féminisme aussi. Mais c'est aussi un très beau roman sur l'époque, dans cette petite ville de province qu'est Rouen, à ce moment-là, où tout le monde se regarde. On reste marié alors qu'on ne s'aime plus. On se tait quand on est victime d'inceste. On ne dit rien aussi quand l'obstétricien commet une erreur médicale et qu'il est le fils d'un confrère. On arrange le coup. On renvoie l'ascenseur. C'est d'ailleurs en partant à Paris que votre héroïne va pouvoir s'affranchir en partie de ses conventions sociales. C'est donc une peinture au féminin, mais aussi une peinture sociale et sociétale très, très belle. Merci beaucoup à vous, Camille Laurence, d'avoir ouvert avec nous cette rentrée littéraire et rentrée radiophonique.
Merci à vous.